Donc je voudrais signaler que je ne suis ni didacticienne du français, ni professeure de français à la base, que je suis formatrice transversale, on va dire, puisque j'ai un parcours de psychologue, que j'ai exercé longtemps à l'UFM de Lyon, et que je suis aujourd'hui enseignante à l'Université de Genève, à l'université qui s'occupe de la formation initiale des enseignants dès le début de l'entrée à l'université en sciences de l'éducation. C'est un parcours qu'ils font à l'entrée à l'université.
Combien de temps t'as été institutrice, Sylvie ?
Et j'ai été institutrice pendant 15 ans dans les quartiers nord de Marseille, en zone d'éducation prioritaire.
Je trouve terrible que tu ne penses pas à le dire d'emblée.
Mais je commence par le présent avant de le dire par le passé.
Non ? D'accord. Non mais, tu comprends bien ce que je veux dire. C'est une chose qui me terrorise à l'intérieur de notre milieu. Que les gens qui sont le plus légitimes du fait qu'ils ont la double formation.
Oui, mais la légitimité, alors après, elle passe aussi pour de la séduction, c'est-à-dire que quand on le dit en formation initiale par rapport...
Te fais pas de soucis, les gens qui sont compétents font bien la différence entre la séduction et la compétence. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vois pas pourquoi de dire je suis maître de conférence à Genève, ça serait pas de la séduction.
Ah, c'est juste.
Bon.
Bon, alors maintenant que vous êtes tous séduits, ça c'est bien. Alors, j'ai double séduction, c'est que j'ai été instite dans les quartiers nord de Marseille pendant 15 ans, en école maternelle longtemps et en enseignement en classe d'adaptation, donc maître E pendant 4 ans. Et c'est ce parcours-là qui m'a amenée à faire des études, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu envie de comprendre ce que je savais si bien réussir. C'est-à-dire que je réussissais bien à gérer ma classe, comme on dit aujourd'hui, et la question que je me posais, c'est pourquoi ces élèves de ZEP, normalement motivés, normalement intelligents, normalement au travail, normalement présents, plus que normalement présents d'ailleurs, ne réussissaient pas mieux les évaluations CE2, alors même, encore une fois, que tout le reste était intact, et j'en suis venue à faire l'hypothèse que si les performances des élèves de milieu populaire ne s'amélioraient pas, c'était en grande partie parce que nos pratiques professionnelles ne s'amélioraient pas, et j'ai eu envie d'essayer de comprendre ce qui faisait la différence entre ces élèves et les autres, et ce qui, chez nous, dans nos propres pratiques professionnelles, ne répondait pas aux caractéristiques développementales et fonctionnelles de ces élèves, et c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'infléchissement des pratiques professionnelles à destination des élèves de milieu populaire. Donc c'est vraiment une entrée par la pratique qui m'intéresse, une entrée par la pratique, et maintenant ce qui m'intéresse le plus, c'est cette affaire de formation initiale des enseignants, en pensant qu'on n'a pas ou on a peu de recherches qui s'appuient sur le développement... Oui, le développement professionnel des enseignants. Alors qu'on a plein de données sur le développement des jeunes enfants, le développement des compétences enfantines, on a peu, je dirais qu'on n'a pas de recherche sur ce développement professionnel-là, c'est-à-dire quelles sont les grandes étapes développementales qui mériteraient d'ordonner nos formations. Et on ne sait pas bien, collectivement, sur quoi faire porter la formation PE1 ou PE2, et au fond, on est là, on navigue à vue. Alors, tout ce que je dis là, vous avez bien compris que je n'ai pas plus de réponses que vous et je n'ai pas fait plus de recherches sur la question que vous. Et donc, je voudrais que vous preniez mon intervention de ce matin comme un témoignage de tentatives de compréhension de la formation. Et tout ce que je vais dire va être évidemment soumis à discussion. J'ai pas plus de réponses que vous. Je voudrais juste vous soumettre la mienne pour qu'on puisse en discuter. Alors, je dirais qu'on a peu dit de choses sur l'ordre de développement des débutants. On a des discours, on a des récits de vie. On a des récits de vie de stagiaires en formation dont on a encore peu fait peu de choses. Et au fond, si on regarde comment on s'y prend, et là je m'excuse de globaliser, je suis convaincue que individuellement vous faites pas comme ça, mais c'est en tout cas le discours que tiennent les étudiants et les stagiaires sur nos pratiques, et là je m'inscris dans ce collectif, ils disent qu'au fond, ils ont l'impression qu'on leur transmet des pratiques expertes sans leur donner les clés de leur application pour des enseignants débutants. Et donc, vu, et là je nous donne raison, c'est vu le temps bref de notre formation, vu l'urgence et vu la misère actuelle de la formation continue, on se dit, globalement, on se dit que on ne peut pas les lâcher dans la nature sans qu'ils aient vu le meilleur, et on se centre sur le meilleur, les pratiques les plus expertes qu'on pense les plus efficaces à destination des élèves. Là encore, il serait intéressant de voir à destination de quels élèves, mais j'y reviendrai plus tard, en se disant que sinon il sera trop tard. Alors on a cette centration sur les savoirs les plus performants à l'école, et je pense que ce qu'on leur transmet là, c'est des savoirs d'experts, et qu'on minore considérablement le fait qu'ils n'ont pas toujours toutes les compétences pour intégrer ces compétences expertes s'ils n'ont pas avant fait le chemin de leur construction. Ça, c'est une première idée. La seconde idée, c'est que quand on les écoute, ils disent que ce qui les taraude au début du métier, mais ça vous le savez bien, c'est cette insécurité cognitive dans laquelle on les place. On a commis un petit livre, un livre avec à l'UFM de Lyon, enfin globalement, qui s'appelait « Débuter dans le métier », et je me suis intéressée au discours que tenaient les PE. Ce livre a été édité par Jean-Luc Ubaldi et publié aux éditions ESF. Et on a demandé à nos étudiants et à nos stagiaires de nous écrire des lettres nous relatant ce parcours-là. Et ce qui m'a beaucoup frappée chez les PE2, qu'on a interrogé au cours du premier trimestre, quand ils entrent en situation de faire la classe, c'était cette peur qu'ils relataient tous, peur des élèves, peur des parents, peur de pas savoir faire, peur de ne pas être comme ce vieil instit qu'ils avaient vu dans la classe en pratique accompagnée. En gros, peur de manquer, et alors ce qu'ils disent massivement, et moi j'écoute ça très attentivement, c'est le manque d'outils, de recettes, de manuels, de tâches, etc. Et là encore, quand ils parlent de ça, je prends ce discours au sérieux, parce qu'il y en a une qui dit, bien sûr qu'il nous en donne à l'UFM, mais il nous donne des choses utopiques. Et ils disent pas théoriques, c'est ça que je trouve intéressant. Souvent, ils opposent la pratique de la classe à la théorie de l'UFM. En fait, quand on gratte un peu, ce qu'ils disent de nous, c'est, ce que vous nous donnez, c'est joli, c'est magnifique, mais moi, je suis pas capable. C'est utopique. Je vois bien l'efficacité de ça, je vois bien pourquoi ça tourne chez le maître formateur, mais moi je sais pas faire, je sais pas comment on peut faire pour gérer 4 groupes ensemble et en laisser 3 de manière autonome et moi être là dans un groupe, etc. Donc c'est pas tant la théorie qui les inquiète, c'est le fait que, alors même que c'est raisonnable, sensé, fondé théoriquement, fondé scientifiquement, et qu'ils sont eux-mêmes des intellectuels, ils se disent que toute cette science-là ne les aide pas dans leur quotidien de l'école. Ça, c'était mon premier point. Alors, notre hypothèse de travail, quand je dis « nous », notre hypothèse de travail, c'est comment on pourrait faire pour, et là, on se retrouve bien dans un phénomène de développement, pour fabriquer de l'attendu. Ce qui les insécurise, ce qui les inquiète, c'est que tout est instable, que tout est insécurisant, que tout est inattendu. Et que le plus beau des scénarios didactiques vole en éclats quand Monsieur Trucmuche décide d'aller sortir son portable et d'aller se bagarrer. Donc c'est bien cette insécurité, c'est comment faire en sorte de gérer l'inattendu quand tout est inattendu. Donc le postulat que je vais faire avec vous ce matin, c'est comment faire en sorte que la classe devienne un lieu d'attendu et donc qu'on leur donne à l'UFM le plus d'attendu possible pour qu'ils puissent faire face relativement mieux aux inattendus. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut stabiliser dans nos cours à nous? Comment réduire les degrés de liberté, si je reprends l'expression de Brunner? Qu'est-ce qu'on peut prendre en charge, nous, à l'intérieur de l'UFM, qui leur permettrait de libérer des ressources attentionnelles pour la gestion de l'inattendu? Comment réduire la part d'inattendu? Ça va toujours? Mm-hmm. Bien. Et notre hypothèse, c'est, et là je retrouve Anne-Marie totalement, c'est partir du faire. C'est contre-intuitif. Et c'est une hypothèse que je vais essayer de développer pendant ma demi-heure, c'est comment faire en sorte de ne pas partir de théories qu'on va essayer à toute force d'appliquer sur le terrain, mais c'est de partir du faire, c'est-à-dire de l'activité même des maîtres, et de remonter aux bonnes raisons qu'ils ont de faire ce qu'ils font et de dire ce qu'ils disent. Et la deuxième hypothèse qu'on fait fortement, c'est celle de l'outillage. On prend au sérieux, et pas par démagogie, et pas parce qu'ils sont dans l'urgence du faire. Ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est pas parce qu'ils sont en train de faire qu'on a choisi cette option-là, mais c'est une option de les outiller de manière assez précise, l'outillage à travers des activités, des tâches, mais surtout les outiller sur la planification. Quand ils vont en stage, ils ont une vision très parcellaire de ce qui se passe en classe, ils ne savent ni ce qui se passe avant, ni ce qui se passera après. Autrement dit, ils voient 3 semaines, et ils ont une vision très parcellaire de ce qu'est une conduite de classe, et on fait l'hypothèse que si l'UFM leur permet de planifier à plus long terme et de raisonner sur les bonnes raisons de ces planifications, alors on est obligé de remonter au savoir savant. Mais vous voyez que cette démarche, elle n'est pas dans un sens de l'application des théories scientifiques à l'activité de l'enseignement, c'est l'activité de l'enseignement redécrite et revisitée à l'aune de ce que les sciences ont permis de construire.
Une bonne petite.
Tu es content ?
Ah oui, oui.
Bien.
Alors, ça commence. Je crie bien. Dans le désert depuis 35 ans, mais voilà.
Bien. Et notre idée là, c'est la même que celle que Anne-Marie vient de dire au départ. C'est comment faire en sorte de combiner des modalités dans des situations pédagogiques où justement tout se mélange. C'est-à-dire que je vais prendre une situation très simple comme la dictée à l'adulte. Quand on regarde le nombre de fois où le terme dictée à l'adulte apparaît dans les programmes, on doit le compter 12 fois. Et comment cette dictée à l'adulte dans les programmes répond à des objectifs totalement différents, si nous ne prenons pas en compte la redescription de la situation en centrant l'attention des étudiants sur quel objectif prioritaire à tel moment, quels objectifs on vise avec cette dictée à l'adulte, alors les étudiants ont l'impression qu'on leur raconte toujours la même chose. Encore la dictée à l'adulte. Et donc moi je crois qu'il y a vraiment cette activité importante de notre part, de redécrire les savoirs des enseignants. Parce que si vous demandez aux enseignants eux-mêmes de redécrire les bonnes raisons qu'ils ont de faire de la dictée à l'adulte, pour une part, il y a beaucoup d'opacité. Et pourquoi beaucoup d'opacité ? Parce qu'il y a tout le passé qu'ils ont depuis le début de l'année, où la dictée à l'adulte a été utilisée dans un objectif, mais ils y reviendront pas dans la situation présente qu'ils présentent aux étudiants. Ça, c'était l'introduction, et il me reste 1 minute. Bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que notre idée fondamentale, c'était une formation qui était basée sur l'action. C'est assez contre-productif quand on entend nos étudiants qui disent à l'UFM c'est théorique. Bien, mais c'est là-dessus que je voudrais centrer l'attention. Alors, quand on regarde les pratiques habituelles, nos pratiques habituelles, compte tenu de l'urgence dans laquelle on travaille, compte tenu dans l'urgence dans laquelle sont nos étudiants et nos stagiaires, c'est-à-dire que les premiers sont dans l'urgence de réussir un concours, et les seconds sont dans l'urgence de faire la classe, et le sont d'autant plus que depuis 1 an, 2 ans, ils sont en classe dès le début de l'année. Quand on regarde comment les enseignants, les formateurs s'y prennent, au fond, je prends la première partie du transparent, ils présentent une situation d'enseignement 1 qu'ils considèrent comme une pratique de référence à juste titre et globalement une pratique de référence construite conjointement par les didactiques et les pratiques d'enseignement des maîtres qui se réfèrent plus ou moins à la didactique. C'est une situation de formation qu'on va détailler. Et puis, charger les... Et je vais prendre un exemple, c'est le groupe nominal en CE1. Et là, on va montrer un dispositif très... costaud, solide, sur la manière dont on peut s'y prendre pour faire construire et acquérir ces concepts aux élèves. Donc une bonne situation de référence, et on choisit une situation de référence et des tâches de référence, et on va faire circuler tout autour de ce concept de groupe nominal au CE1. Et puis, charger l'essai à l'intelligence des stagiaires d'opérer la décontextualisation, d'abstraire des connaissances et des principes qui vont guider l'action, attention, la leur. Et quand on présente la situation de référence, on est bien dans l'action et l'activité, certes, mais on est dans une activité, et je pense, plus experte que celle des étudiants, et c'est à eux d'abstraire et de le faire, et de recontextualiser. Autrement dit, de se demander comment ils vont pouvoir procéder pour faire la même chose en CM1 sur un autre champ, et la même chose en petite section de maternelle sur un autre contenu. Et donc la pratique nouvelle, la situation 2 d'enseignement, elle est laissée à la charge du stagiaire. Et de la même manière... que ces décontextualisation, recontextualisation interdisciplinaire, c'est aussi laissé à la charge des étudiants. Et ça l'est tellement que quand on les écoute, ils passent leur temps à dire que c'est redondant. Alors c'est très rigolo. En même temps, on leur laisse à faire tous les transferts entre les disciplines, et en même temps, eux se plaignent de redondance, et on regarde, et quand on analyse comment ils recontextualisent, ils disent, oui, de toute façon, il faut toujours qu'on fasse partir des conceptions des élèves, et dont on fait pas grand-chose, mais enfin, ça fait rien, et les inciter à découvrir. L'autre jour, on montrait une vidéo d'une enseignante de CE2 à des PE2, et cette enseignante de CE2 faisait la tâche suivante. Elle voulait faire comprendre comment trouver un sujet dans une phrase. Donc elle disait, eh bien, c'est ce qui encadre, c'est qui. D'accord ? Et là, les étudiants sont outrés quand ils voient cette séance en disant « Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. On nous a dit à l'UFM qu'il fallait partir des conceptions des élèves et elle n'en fait pas du tout ça, donc c'est pas bien. Et surtout, drame, elle donne la procédure. Et ça, il faut pas le faire. Mais s'ils disent « Je suis convaincue que personne d'entre nous dit ça. » Maintenant, il faut comprendre pourquoi eux l'infèrent et le transfèrent. Et ce qui fait qu'ils l'infèrent et le transfèrent à leur propre pratique, c'est la redondance. C'est-à-dire que dans tout un tas de nos situations d'enseignement numéro 1, c'est ça qu'on présente. Et c'est ça qu'on présente en sciences expérimentales, c'est ça qu'on présente en français, c'est ça qu'on présente en mathématiques, hein, avec toute cette idée de résolution de problèmes. Il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils découvrent, il faut qu'ils traitent les informations. Si on regarde bien, on a beaucoup de dispositifs de formation qui reposent là-dessus. Et eux, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils surgénéralisent. Tout comme le font les élèves dans les classes, ils voient billes, ils font une addition et tous les enseignants se plaignent de ce surtransfert. Quand les psychologues déplorent que les élèves ne transfèrent pas assez, tous les enseignants déplorent qu'ils transfèrent trop à tort et à travers. Et ça, on le constate aussi chez nos étudiants. Si on laisse à leur charge le transfert intradisciplinaire et interdisciplinaire, alors ils vont surgénéraliser, et bien souvent à tort. Ça marche ?
Ils vont faire que des situations de découverte.
Et voilà.
Mais parce que les situations de découverte, comme elles partent à zéro, c'est très facile de les présenter en formation parce qu'elles ne demandent pas de mémoire.
Exact.
Alors que dès qu'on fait une situation numéro 3,
exact,
elle suppose connue la situation numéro 1, numéro 2. Dans le temps de la formation, on n'a pas le temps de faire les 3.
Oui. Et donc, exactement. Donc, il n'y a pas de mémoire, mais nous, on n'en a pas. Donc, en tant que formateur, on n'en a pas de mémoire parce qu'on a trop d'urgence. Alors évidemment, on part au plus pressé. Je ne suis pas en train de nous accuser collectivement. J'essaye de comprendre. Donc, on fait comme si... En fond, la démarche proposée, puisqu'on n'a pas de temps, était valable pour tous les contenus, tous les niveaux, tous les contextes scolaires. Et ce point de tous les contextes scolaires me paraît fondamental. On fait comme si, et là je vais faire la parallèle avec les enseignements, on fait comme si l'élève, au fond, était un sujet épistémique et que ça marchait bien dans tous les contextes. Et vous retrouvez mon alerte depuis le début sur ces élèves de milieu populaire qui ne sont pas scolairement convertis, qui n'ont pas à la naissance les clés qui ouvrent les portes de l'école et que certaines situations qu'on propose sont contre-productives pour certains élèves. Donc ça, je reviendrai après. Donc on va essayer de raisonner. Alors voilà, là ça va être plus sur la proposition alternative. C'est au fond, en procédant de la sorte, tout se passe comme si les PE n'avaient pas le choix dans ces situations nouvelles. Ils étaient dans l'application de cette situation de référence qu'ils prennent comme une situation modèle prototypique pour laquelle ils n'avaient aucun choix de faire autrement. Nous allons essayer de raisonner maintenant comment on pourrait, à minima, essayer de redonner une marge de manœuvre, de redonner du choix aux enseignants. Donc, comment faire en sorte que les formateurs les aident à faire ce chemin de transfert en proposant un certain nombre de principes. Et c'est pour moi un des travaux du généraliste ou du transversal. Pas seulement, hein, mais je vais dire comment nous, dans notre perspective de transversal et de généraliste, on pourrait essayer d'abstraire, au fond, d'aider les stagiaires à travailler sur ça, c'est-à-dire abstraire des connaissances et des principes qui guident l'action, à la fois des maîtres experts et la leur. Et là, si on regarde, alors là je reviens sur mon premier point concernant le développement professionnel des stagiaires, on constate que la première inquiétude, ce qui sort en premier quand on les interroge, c'est savoir maîtriser le groupe, j'y reviendrai pas, c'est ce qui se règle à peu près le mieux. Le groupe, j'ai pas dit l'élève, hein, mais c'est ce qui très tôt, très vite les rassure, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire la classe. Ce qu'on observe et ce qu'on leur transmet avant qu'ils partent en classe, c'est beaucoup, et ça c'est la PE1, la planification didactique et le choix des tâches. Mais en faisant l'hypothèse qu'une fois les questions didactiques réglées, alors ils pourront prendre en compte les élèves. Une fois qu'ils seront sortis de cette centration exclusive sur l'apprentissage du métier, alors ils pourront, et là ils utilisent les élèves pour apprendre leur métier, alors une fois qu'ils seront rassurés sur le fait qu'ils sont capables de tenir une séance sur 45 minutes, alors ils pourront prendre en charge les différences interindividuelles et s'occuper un peu des élèves. Et il nous semble que le grand absent de cette formation, c'est le troisième point, c'est-à-dire les gestes professionnels et la régulation du déroulement de la tâche et de l'activité des élèves. Et là-dessus, c'est là-dessus que je voudrais poursuivre. C'est-à-dire comment se décoller, comment leur permettre le plus vite possible de se décoller de la tâche et du guidage de la tâche et de leur propre centration sur eux-mêmes pour se décentrer et s'intéresser aux apprentissages des élèves. de se, en gros, se détacher de leur fiche de préparation pour pouvoir s'intéresser au groupe qu'ils ont face à eux. Notre hypothèse, c'est que quand on maîtrise la tâche, quand on n'a pas d'inquiétude, d'insécurité sur la tâche elle-même, alors on peut se concentrer sur les élèves. Et évidemment, on peut faire l'hypothèse que c'est parce qu'on l'aura faite plusieurs fois qu'on pourra se décentrer, mais pour nos étudiants, c'est très insatisfaisant parce que justement, ils font pas plusieurs fois et ils y sont tout le temps dans l'urgence du faire. Alors, la question, c'est comment, à l'UFM, on peut faire en sorte que, avant qu'ils y aillent, ils se soient accaparés, appropriés ce déroulement et cette activité. Et c'est là que je fais cette proposition d'outillage. L'outillage, pour moi, il se cantonne pas à une séquence prototypique, mais bien à un ensemble de dispositifs, un outillage assez long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un certain nombre à construire des outils pour faire la classe, avec cette idée que ce sont des outils qui sont favorables à la formation. Que quand on aura passé du temps à comprendre la manière dont ces outils-là sont pensés, à comprendre comment ces outils-là peuvent être mis en place en classe, à comprendre, alors on pourra centrer l'attention des étudiants en situation de formation sur les élèves, c'est-à-dire, mais au fond, comment, à votre avis, les élèves dans cette situation vont répondre? Donc, ils sont rassurés sur le fait que la tâche qu'ils choisissent, elle est légitime. Ils n'ont pas à la créer, ils n'ont pas à la penser, ils n'ont pas à la concevoir, ils n'ont pas à la tester, elle existe. Mais ils auront l'activité importante à faire, c'est si elle existe sur le terrain, alors maintenant, et que je la mets en place, alors maintenant, à quoi je dois m'attendre dans la régulation, non pas de la tâche puisqu'elle est planifiée, mais de l'activité des élèves. Et ça, c'est un dispositif assez puissant où on va essayer de faire raisonner les étudiants sur quand je vais demander ça à un élève, à votre avis, quelles sont les réponses possibles qui vont jaillir de la classe et du coup, quel type de réponse on va pouvoir proposer. Et vous voyez bien qu'on est là en train de proposer de l'attendu dans une situation qui jusqu'alors était parfaitement inattendue. J'ai presque fini. Donc, au fond, l'idée là, c'est on va leur permettre d'anticiper sur ce que les élèves vont faire et du coup d'anticiper sur leur propre guidage. Et on leur donne ici des modes opératoires de faire, c'est-à-dire des modes opératoires pour planifier l'activité. Et c'est que dans un second temps, c'est qu'on justifie les outils et les pratiques professionnelles à l'échelle de la planification et par les savoirs en jeu et par les recherches qui ont permis d'aboutir à cette construction d'outils là. Donc, on n'en fait pas des simples exécutants en leur disant, ben voilà, il y a des outils, appliquez-le, après on en parlera. On leur permet de comprendre l'origine, les causes et les bonnes raisons qu'à un moment donné, on a eu de faire ce qu'on fait en classe à partir de tous les travaux. Mais vous voyez que c'est totalement inversé par rapport à une démarche habituelle.
Et ce n'est pas la réciproque. Le fait que ce soit inversé produit des effets de réflexe. Pour ça que je dis un enjeu théorique. C'est qu'on n'est pas simplement dans une lecture à l'envers où on irait simplement du terrain à la théorie, parce que du terrain, on va vers toutes les théories.
Oui.
Et de ce fait-là, ça modifie la conception même qu'on se fait des théories.
Donc vous avez bien compris qu'on n'est pas dans une perspective d'innovation, c'est-à-dire que pour nous, les stagiaires ne sont pas des innovateurs, mais bien des personnes qui s'approprient les gestes du métier, qui fonctionnent dans l'ordinaire du métier. Là-dessus, je voudrais dire juste un mot sur les pratiques accompagnées, où ils observent ces pratiques dont on parle. Parce qu'au fond, ce qui leur manque, et c'est là-dessus que c'est tout ce qui guide le maître chevronné, et que le maître chevronné ne dit pas quand il supplée au blanc des manuels des guides du maître. C'est-à-dire quand on regarde les guides du maître, toutes les modalités de guidage sont totalement implicites. On leur donne des activités à faire, on leur donne des tâches, des situations, des exercices. Et là, vous prenez n'importe quel manuel de cours préparatoire et vous voyez que toutes les situations sont extrêmement bien décrites, le déroulement est extrêmement bien décrit, mais le guidage sur l'élève est absolument absent. Pourquoi ? Parce que tous les éditeurs comptent sur l'expertise des enseignants et ils savent bien que les maîtres chevronnés vont suppléer à ça, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de guider les élèves en fonction de leur niveau sur des activités lambda. Et là, c'est ça, c'est l'idée de nos formations outillées, c'est bien avec eux et en absence des élèves, d'expliciter, de redécrire les modalités de guidage qui sont les grands absents et que les enseignants chevronnés redécrivent relativement peu parce que justement c'est enclavé dans leur savoir-faire. Et voilà, ce qui nous paraît intéressant, c'est si les débutants ne peuvent pas suppléer au blanc, alors on peut, nous, en formation initiale, en distinguant les modes de guidage en fonction des réponses enfantines. Je vais donner un exemple concret très vite. Hein. Donc, c'est organiser le travail en formation pour remplir les blancs. Et au fond, l'idée, là encore, c'est plutôt que de partir des textes de référence, des programmes et des compétences visées, on va raisonner beaucoup en formation sur les tâches qui permettent d'atteindre les compétences. Et c'est un raisonnement totalement inversé. C'est-à-dire que, et là-dessus, moi, j'ai mis longtemps à changer d'optique. J'étais très agacée depuis le début de mon métier de ce que chaque fois qu'on demandait à un de nos stagiaires, qu'est-ce que tu vas enseigner demain ? Et il disait, je vais leur faire faire ça. Et ça me rendait folle. Et je disais, mais non, mais on se demande pas ce que tu vas leur faire faire, on te demande ce que tu veux leur faire apprendre. Et là, je me suis aperçue que ça, on changerait pas ça si on n'était pas capable de prendre ça comme une procédure de base. C'est-à-dire, ce qu'ils savent faire, et non pas en disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire et je vais changer ça, c'est, d'accord, c'est une donnée de mon métier, ils partent du faire, alors je vais essayer de raisonner avec eux, comment rendre ce point de départ efficace et redécrire avec eux comment, en partant de ce faire, on peut remonter aux procédures en jeu, aux apprentissages en jeu. Donc là, j'ai renoncé à les changer, c'est moi qui ai changé de ce point de vue-là. Donc, partir des programmes, non pas en disant quelles sont les compétences à enseigner, mais quel type de tâches permettent d'enseigner. Et là, je vais prendre 5 ensembles de tâches à la charnière grande section CP, et notamment dans le domaine de la lecture et de l'écriture, et on constate au fond que qu'est-ce qu'il y a comme tâche emblématique utilisée par tous les enseignants grande section CP, on en trouve 5. On trouve les lectures de mots, les ateliers d'écriture, écriture tâtonnée, hein, bien, copie et copie différée, production d'écrit avec la dictée à l'adulte ou sans la dictée à l'adulte, et puis la mise en relation énoncé oral, énoncé écrit et entraînement phonologique. Je voudrais juste donner un exemple de comment on peut... cet exemple m'intéresse parce qu'il est finalement assez facile à décliner parce qu'il peut s'expliciter sur un temps relativement court. Et je vais prendre celui de la copie différée. C'est une tâche globalement très peu utilisée à l'école, en tout cas. Beaucoup utilisée à l'école, peu enseignée. Peu ou pas enseignée. Et là, c'est là-dessus que je mène mes travaux sur le nombre de compétences requises à l'école qui font l'objet d'une requise parce qu'elles sont sollicitées dans une grande variété de tâches différentes et elles ne font pas l'objet d'un enseignement de procédure en tant que telle. Je vais prendre l'exemple de la copie différée. J'ai encore 5 minutes ?
Oui, on va les prendre. On a besoin de savoir comment tu fais ta copie différée. Bien que, j'avais réussi à l'introduire dans les cahiers d'évaluation la dernière année où j'y étais, mais c'était il y a 3 ans ou 4 ans.
Tout à fait. Alors, on a fait ce test-là à la sortie de la grande section. 400 élèves de ZEP. 400. On leur montre un mot et on leur dit, tu vois ici, il y a écrit lapin. Et toi, tu vas devoir le recopier sans modèle. Il est écrit en attaché, je n'ai pas le logiciel ici. Et donc, tu vas le regarder tant que tu veux. Tu vas l'écrire. Quand tu le reveux, je te le remontre. Et nous, on compte le nombre de fois où l'enfant va nous demander le modèle. Ça marche ? Une fois que le premier mot est écrit, on leur donne celui-là. Et une fois que le second est écrit, on leur donne celui-là. Il est évident que là-dessus, il y a tout un tas de procédures efficaces que je redécrirai après. Mais pour l'instant, je voudrais montrer un des résultats. Alors non, juste pour Anne-Marie. C'est quand on propose ça aux élèves. Pour certains élèves, à la sortie de la grande section, c'est comme si, à vous, je vous proposais la même chose, écrit en taille. En haut, il y a lapin, canari et le chat de Pépé. Comme vous êtes de bons élèves, et comme si vous vous mettez à vous demander comment je vais m'y prendre, vous avez tout un tas de stratégies qui vous permettront de ne me demander quasiment pas le modèle. Vous allez travailler. Hein. Avant de me dire, enlève-le, ça va vous prendre 10 minutes. Mais vous n'allez pas lâcher. Et là-dessus, ça vaut la peine de savoir comment vous vous y prenez dans un contexte totalement inconnu pour ramener à du connu et à essayer de voir comment ça vous allez pouvoir le copier. Et notamment, vous allez dire, ah ben oui, le premier, ça s'écrit de gauche à droite, je précise, parce que c'est pas évident. Et le premier, c'est comme un bec d'aigle et vous allez vous mettre à parler les choses. Vous ne pouvez pas nommer les choses. Vous ne savez pas les lettres. Vous ne savez pas le nom des lettres. Du coup, vous allez...
Si on sait le nom, c'est trop
important. Exact. Donc, ça va être mon deuxième aspect. C'est comme vous ne savez pas le nom des lettres, vous allez être obligé de faire du dessin. Vous allez dessiner. En l'occurrence, là, c'est pas mal. Et vous n'avez pas d'autre moyen que de mémoriser une forme et pas une lettre. Et du coup, vous n'avez pas d'autre moyen que de dessiner. Bien. Voilà. Bon. Pardon. La pratique. Non, je m'en fiche. Je passe. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Ça va m'amener trop loin.
Voilà.
Non. Voilà. Mélanie, femme grande section, 28. Regardez Lapin. Donc, elle a traversé 4 années d'école maternelle et on considère qu'elle dessine. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez la quantité de regards sur Lapin. Donc, là, on est bien dans du dessin. On n'a pas la connaissance des lettres. Et donc, comme on n'a pas la connaissance des lettres, eh bien, on dessine les lettres. Ça marche, ça? Mm-hmm. Alors, maintenant, j'en ai d'autres, hein, mais... Mais pourquoi ça? Ça vient. Pratique habituelle à l'école, qu'est-ce que c'est? Donc, que voient nos stagiaires? Ils voient des élèves qui sont seuls à une table et qui font de la copie avec le modèle sous le nez. On n'est pas tout à fait dans la copie différée, parce que plus le modèle est prêt, et moins ça diffère. Évidemment, si le modèle est au tableau, on est dans la copie différée. Et quand vous regardez en CM2, l'écart qu'il y a entre des copies d'enfants, vous écrivez un truc au tableau et vous regardez l'écart qu'il y a, eh bien, vous verrez des différences de 5 à 10 minutes, certains qui finissent toujours après les autres. Alors évidemment, je suis d'accord, ça c'est du bas niveau. C'est pas très noble. Alors, on aime mieux enseigner des compétences nobles que des compétences pas nobles. Mais moi, je persiste à penser que ce type de compétence, elle va faire la différence. Et elle va la faire de façon massive. Donc, je renonce pas, en disant ça, à tout ce qui est fondamental hein, dans les 5 autres de la liste.
Au contraire.
Les 5 autres de la liste.
Fais en sorte que ça devienne possible.
Voilà. Et que ces compétences requises dans toutes les activités de maternelle deviennent faciles, maternelle et primaire, soient... enseigner, c'est-à-dire les procédures qui sont efficaces pour faire ça, soient enseignées. Alors, ils font ça, les enseignants. Les bonnes raisons qu'ils ont de faire, c'est les élèves adorent faire ça et ils réussissent. Et que comme ça, pendant le temps où ils font cette copie de mots, de phrases, etc., eux, ils peuvent être centrés sur le fonctionnement d'un élève. Ok, ça marche. Sauf que si on ne fait que ça, eh bien, on va voir ça. Et quand on va voir ça, la maîtresse va dire « C'est super beau, Malika. Alors là, bravo, hein, tu as écrit très, très, très bien. » Et puis, quand on filme Malika et qu'on regarde comment elle s'y prend, eh bien, on voit ça. Et donc, on va encourager ce mode de fonctionnement lacunaire, ce mode de traitement lacunaire, parce que le résultat est joli, mais au fond, vous avez vu...
Il
n'y a pas une lettre, il n'y a que des bâtons, c'est du dessin. Et elle va entrer en cours préparatoire en faisant du dessin. Ça marche? Donc, vous voyez bien qu'elle, de ce magma Malika, elle abstrait pas les lettres, ni leur nom, ni le son qu'elles font, blablabla, j'y retourne pas. Donc... Si, et là, je vais arrêter là. En formation, ça tape. Quand on leur montre ça, ça tape. Et la pratique alternative, elle est où? Elle est évidemment dans plein de choses, dans la prise d'information. C'est-à-dire, on enlève le modèle de sous le nez. Si on enlève le modèle de sous le nez, qu'on le met au verso, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, tu mets au verso et tu te débrouilles. On leur dit, comment on fait? Comment on fait pour mettre dans sa tête ce qu'il y a de l'autre côté pour éviter de tourner sans arrêt? Et là, on va guider sur les procédures efficaces. Comment on fait? Eh bien, on met dans sa tête. Comment on met dans sa tête? Il n'y a pas de meilleur moyen que de mettre des mots sur les choses, parce qu'on sait que quand on met des mots, des noms, eh bien, on s'en souvient mieux, plutôt que des formes. Alors, on va nommer les lettres, et puis on va nommer la succession des lettres, on va les mettre dans sa mémoire, et on va utiliser ce que Zerbatov Poudou fait si bien, c'est que doit faire ma main pour écrire les lettres. Bon, et là, je ne vais pas vous faire la leçon, vous connaissez par cœur. Et vous voyez bien comment on passe de la pratique ordinaire à... une pratique plus volontariste qui centre l'attention des étudiants à la fois sur les bonnes raisons que les enseignants ont de faire et les pratiques alternatives et les bonnes raisons qu'on a, et là évidemment je vais pas vous faire la leçon, les bonnes raisons qu'on a de faire mémoriser des suites de lettres parce que ça participe à mémoriser une suite orthographique et on sait l'impact sur l'apprentissage de la lecture. Et donc on voit comment sur cette situation minimum, quand elle est utilisée régulièrement, les étudiants sont tout à fait capables de comprendre que oui, là on touche quelque chose qui n'est pas enseigné et qui mériterait de l'être si on veut pas tout laisser à la charge des élèves, notamment ou à la charge des parents, ce qui est mon deuxième cheval de bataille. Bon, j'ai coupé. C'est bon. Voilà. Je vais arrêter là.
C'est voilà. Les cinq, ah oui. Lecture de mots, atelier d'écriture, production d'écrit, mise en relation énoncé oral, énoncé écrit, entraînement phono.
Et on voit là que Anne-Marie, elle écrit plus vite que vous. Et voilà. Et vous voyez le problème. Quand vous allez vite, quand
non, mais parce qu'ils t'écoutent et ils savent pas ce que tu vas dire. Ils peuvent pas faire une double tâche. Ils sont dans un surcharge cognitive.
Exact.
Moi, je sais tout ce qu'elle va dire.
Et c'est la même chose. Et c'est exactement la même chose à l'école. quand les enseignants disent aux élèves, allez, on affiche un texte au tableau et on va lire. Et vous voyez comment, avec les étudiants, on peut faire ces liens permanents. On affiche un texte au tableau, on dit aux élèves, lisez-le, en même temps qu'on parle à la classe, et on s'arrête vite parce que les premiers ont terminé, et on enclenche sur l'activité. Et on voit comment certains élèves sont systématiquement hors jeu de la situation d'enseignement pour cette raison-là. On dit aux élèves, copiez, les élèves n'ont pas fini, et à certains, on va dire, c'est pas grave. Eh ben, si, c'est grave. Mais si c'est grave, et c'est grave parce que alors, l'école a cette responsabilité d'enseigner les compétences requises à l'école.
Il y a quand même un tout petit point sur lequel moi j'aimerais que, pour conclure, tu dises comment, par exemple, dans un module de formation PE, tu as combien d'heures et comment tu organises ton emploi du temps pour faire ça.
Alors,
dans la formation.
Dans une histoire ancienne.
Oui, dans une histoire ancienne.
J'avais ce dispositif-là, j'avais 90 heures sur un module maternel. La vie était belle. C'est à l'époque où la vie était belle. C'était l'époque où la vie était belle, donc 90 heures où, alors je voudrais juste parler de ce dispositif 5 secondes, où on était en association de malfaiteurs avec des gens qui pensaient pas que les manuels c'était la pire des races, qu'il fallait surtout pas leur donner manuels, que les manuels étaient tous pourris. Et donc on avait un collectif de formateurs considérant que les manuels avaient beau être un peu critiquables, c'était toujours mieux que ce qu'ils pouvaient piquer sur Internet, notamment justement parce qu'il y avait cette progression. Et on était associés avec les formateurs de maths, de français, de PS, de sciences, etc. Et nos étudiants avaient comme ancrage 2 ou 3 manuels et on les a fait tester. Enfin voilà, donc on avait, c'était 90 heures. Aujourd'hui, je pense que la seule manière dont on pourrait continuer ces dispositifs, c'est d'associer les maîtres de terrain. Et d'associer, c'est-à-dire de partir de leur propre manuel, c'est-à-dire ceux qui sont le plus représentés sur le terrain de la circonscription ou du département, et de faire d'essayer de voir comment
bon, enfin. D'accord. Alors je vais donner la parole à Sylvie. Ça fait une merveilleuse transition parce qu'elle va expliquer comment à Paris, quels sont les dispositifs existants actuellement dans les UFM. Et il y en a à Paris, moi que je fréquente d'ailleurs, se sont organisés. Disons des partages entre les moments de cours ou les moments d'information, alors qu'on dira globalement discursive, ça n'est pas forcément théorique, et puis l'organisation de temps de travail sur le terrain avec des tas de formules, et peut-être là-dessus ou dans la discussion, on aura des apports de vous.